sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude sur un long trajet, une pause toutes les deux heures?
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 20h.
Parlons vrai.
Tout de suite, un point sur l'information.
Bonsoir à tous. 560 000 euros, c'est le montant du préjudice d'un braquage spectaculaire qui s'est déroulé ce matin à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Une information de nos confrères de BFM TV. Un fourgon qui transportait des bijoux a été attaqué par deux voitures béliers. Quatre hommes cagoulés, habillés en noir et armés, ont extrait les deux chauffeurs avant de mettre le feu au fourgon. Les voleurs ont ensuite pris la fuite avec le butin. Ils le sont toujours activement recherchés. Une enquête est en cours. La mobilisation pro-palestinienne dans les L'université française fait tache d'huile. Le campus de Sciences Po à Menton, dans les Alpes-Maritimes, est désormais inaccessible jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Par sécurité, le site de Sciences Po Toulouse a lui aussi fermé ses portes. D'autres étudiants se sont encore mobilisés du côté de Lyon, de Grenoble ou encore de Dijon. Sur le front diplomatique, l'appel d'Anthony Blinken au Hamas. Le secrétaire d'État américain demande au mouvement palestinien d'accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël. Concrètement, cette proposition prévoit un cessez-le-feu de 40 jours en échange de la libération d'otages retenus à Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois promis que l'armée israélienne entrerait dans Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza, qu'un accord de trêve soit conclu ou non avec le Hamas. Il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales, démarche nécessaire pour pouvoir voter le 9 juin prochain lors des élections européennes. La date limite est fixée à demain en ligne et le 3 mai, c'est-à-dire vendredi en mairie. Pour ceux qui ne seront pas présents pour cette échéance, vous pouvez faire votre demande de procuration sur le site maprocuration.gouv.fr ou bien vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Et puis ça y est, il est enfin de retour au Louvre. La liberté, guidons le peuple. Ce tableau d'Eugène Delacroix peint en 1830 est retourné aujourd'hui sur le mur de sa salle d'exposition après une restauration qui aura duré près de 6 mois. L'œuvre n'avait pas connu de coup de neuf depuis 75 ans. Excellente soirée à tous à notre écoute.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Soyez les bienvenus sur Sud Radio, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono. On retrouve tout de suite Jean-Jacques Bourdin et ses auditeurs.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Nous allons partir pour les Pyrénées-Orientales.
Oui.
Cela fait des mois qu'il ne pleut pas sur les Pyrénées-Orientales. Confronté à une sécheresse record, je pense que dans les Pyrénées-Orientales, on n'avait jamais vu ça. Et puis tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Et Bruno, qui est maraîcher arboriculteur à Saint-Cyprien, est avec nous. Bruno, bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques Bourdin.
Vous êtes heureux de voir tomber la pluie, j'imagine, Bruno?
Ah ben effectivement, on est réjouis d'avoir ce temps pluvieux depuis 2-3 jours et enfin de la pluie significative dans notre département.
Mais ça pleut bien depuis 2-3 jours?
Ah, oui, c'est ça, on a eu jusqu'à entre 60 et 80 mm dans le département. C'est presque autant que ce qu'on a eu les 6 derniers mois. Donc autant dire que pour nous, c'est exceptionnel, voire même inespéré.
Alors quand vous voyez tomber cette pluie, vous essayez de recueillir l'eau, comment ça se passe? C'est vrai, parce que quand on est comme ça, confronté à la sécheresse, j'imagine qu'on réfléchit à tous les moyens pour essayer de stocker l'eau.
Oui, évidemment, ça va améliorer la situation et oui, l'ensemble des stockages d'eau vont pouvoir significativement s'améliorer. Bon, on a aujourd'hui une pluie en plus qui est régulière, donc du coup ça nous permet de bien humidifier les sols et pas d'avoir des précipitations trop fortes comme on peut avoir en Méditerranée où toute l'eau partira à la mer. Donc là c'est bien parce que l'eau s'infiltre, réhumidifie la terre, voilà, et pour nous c'est vraiment inespéré oui, ce début de printemps où clairement nos perspectives en termes de ressources hydriques étaient sombres pour les semaines et les mois à venir.
Bon, ça va vous permettre de passer le printemps et peut-être une partie de l'été dans tous les cas. Il faudrait qu'il repleuve encore. Bruno, vous êtes maraîcher, vous êtes arboriculteur. Que cultivez-vous, dites-nous?
Moi, je suis producteur de tomates, concombres, fraises, sous serre, voilà. Et en arboriculture, des produits pêche, nectarine, abricot, qui sont les productions, on va dire, classiques, traditionnelles des Pyrénées-Orientales.
Vous vous attendez à une bonne récolte, du coup?
Écoutez, oui, alors c'est pas avec la pluie qu'on a eue où on va sauver notre saison, au vu du déficit qu'on a eu depuis 2 ans. Mais clairement, ça nous donne un peu de perspective pour les semaines à venir, y compris d'ailleurs pour les cultures non irriguées, puisqu'on avait quand même des vignes qui sont extrêmement touchées par la sécheresse, voire certaines qui sont en train de mourir aujourd'hui. Donc clairement, ça va donner une bouffée d'oxygène aux producteurs du département, et on espère avoir encore quelques épisodes pluvieux dans les semaines et mois à venir, de façon à passer la saison sans avoir trop de problématiques de production. Et bon, clairement, là, ça nous sauve les semaines à venir. Et on va espérer que les épisodes continuent comme ça, quoi.
Bien. Merci, Bruno. Et je suis... Parfois, il faut donner de bonnes nouvelles. Vous savez, c'est bon de donner aussi de bonnes nouvelles de temps en temps. Parce que si vous écoutez les médias, vous n'entendez que des mauvaises nouvelles. Jamais personne ne donne, alors qu'il y a de bonnes nouvelles. Oui, mais ça ne fait pas recette, les bonnes nouvelles. Donc, on ne les met pas en avant. C'est tout simple. Bien, merci beaucoup Bruno. Les écrans et les jeunes. Alors, on attend, Maxime, avec impatience, le rapport, on sait déjà ce qui contient, dans ses grandes lignes, le rapport qui avait été demandé par le gouvernement à des spécialistes pour fixer les dangers et les limites à l'utilisation des écrans pour les plus jeunes.
Oui, ce rapport va être remis ce matin, Jean-Jacques, à Emmanuel Macron, donc sur l'exposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux, avec ce rapport donc commandé en tout cas par deux rapporteurs, le professeur Amine Benyamina et le docteur Servane Mouton, coprésident de la commission des écrans. Que disent-ils? Eh bien, ils préconisent d'interdire les écrans pour les moins de 3 ans, les téléphones pour les moins de 11 ans et les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ils font plusieurs préconisations sur la question.
Mais alors, interdire? Mais comment interdire? Alors interdire les écrans aux moins de 3 ans, ça c'est de la responsabilité des parents. À 11 ans aussi c'est de la responsabilité des parents. Mais c'est bien plus difficile à 11 ans d'interdire les écrans et notamment le téléphone portable. 11 ans. Vous réagissez, 0826-300-300. Tiens, comme Cynthia qui est à Narbonne. Bonjour Cynthia.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tout le monde.
Ça va bien Cynthia ce matin ?
Ça va très bien, je suis dans les PO.
Justement. Et il pleut ?
Voilà.
Et il pleut ?
Oui, il pleut. Donc, mais ce n'est pas le déluge comme hier. Donc
non.
C'est déjà bien.
Mais c'est bien. Une pluie régulière, c'est ce que nous disait Bruno. C'est bien.
Écoutez. Oui, c'est très bien. On espère qu'on va avoir une bonne saison et des bons fruits et légumes.
Bon, vous avez des enfants de 6 et 10 ans, Cynthia ?
Voilà, j'en ai 3.
6 et 10. 6, voilà. 10 et combien ?
6, 8 et 10.
Alors, la plus grande, 10 ans, a un téléphone portable ?
Oui, mais en fait, alors comme je vais vous dire rapidement, c'est que je trouve un tout petit peu aujourd'hui utopique d'interdire les écrans à la maison. Pourquoi ? La petite de 6 ans, elle fait ses devoirs sur Internet. C'est-à-dire que l'école, elle a donné des devoirs numériques. Donc, sans écran, ça va être compliqué de les faire. Voilà. C'est pareil pour celle de 8 ans ou 10 ans. Ensuite, la grande de 10 ans, elle voyage. Je peux pas me permettre de dire qu'elle part en voyage sans un téléphone au cas où. Pour moi, c'est voilà, elle va à l'étranger ou je ne sais quoi. Je veux qu'elle ait la dernière fois, ils sont partis en Espagne à PortAventura. J'étais contente qu'elle ait un portable avec elle.
Oui, bien sûr.
Voilà, que je puisse avoir au moins des nouvelles ou au cas où on puisse nous joindre. Pour moi, c'est la moindre des choses. Maintenant, je serais d'accord, par contre, sur le fait que ces enfants ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux.
Mais
et
comment
pour
faire
moi, quelqu'un donc... qui va... Comment faire? Les téléphones, c'est moi qui les contrôle.
Voilà.
Y a une application. Elles n'ont pas le droit de télécharger les réseaux sociaux. C'est moi qui contrôle tout ce qu'elles téléchargent. Le temps passé sur le téléphone, c'est moi qui le contrôle. C'est-à-dire, si je dis, vous passez que 30 minutes pour faire les devoirs, c'est 30 minutes pour faire les devoirs. Pas plus. Le téléphone, après, il s'éteint. Il faut un code. Qu'elles n'ont pas.
Mais vous avez raison.
Cynthia. Donc c'est pour moi c'est le contrôle des téléphones, c'est pas l'interdiction, c'est le contrôle et expliquer avec les enfants. Le téléphone c'est fait pour des choses urgentes. Avant on s'en passait bien. Moi j'avais pas de téléphone quand j'étais jeune. Je fais on s'en passait très bien. Elles sont jamais sur le téléphone parce que nous on a la chance d'être au bord de la plage et pas loin de la montagne, donc on est tout le temps plutôt dehors de ce côté-là. Et elles font beaucoup d'activités, que ce soit artistiques ou sportives. Mais ça c'est encore une fois c'est du fait des parents. Maintenant, c'est vrai que c'est facile quand elles sont à la maison de se dire, oh ben, on va les mettre devant la télé et comme ça on fait le ménage et tout ça. Non, moi par exemple, je dis non, je veux pas la télé, mais je vais leur donner des dessins à faire, de la peinture, d'autres choses. Voilà, réviser le piano, la flûte, ce genre de choses. Mais pour ça, c'est encore une fois la responsabilité des parents. Par contre, interdire pour voyager, pour faire les devoirs, c'est pas possible. Les réseaux sociaux, on peut les interdire. On peut dire aux enfants, parce que moi je trouve, hein, je suis sur les réseaux sociaux et je vois parfois des enfants et je leur dis mais ils n'ont pas à y faire. Déjà quand vous avez moins de 13 ans c'est interdit et pourtant ils y sont. Et les enfants de 13 ans ils sont irresponsables sur Internet. Ils ont accès à tout ce qui est pornographie, drogue, violence et pour eux ça devient la norme. Et après ça fait des adolescents complètement perturbés et très violents et on se demande pourquoi. Bah oui, mais déjà il faudrait qu'ils ne puissent pas être sur les réseaux sociaux. Voilà.
Je suis assez d'accord avec vous, même totalement d'accord avec vous, Cynthia. Bien, il y a des parents qui exercent leur responsabilité, d'autres qui ne l'exercent pas, et certains sont confrontés à cela et sont un peu désemparés, parce que c'est pas si facile que ça, hein, d'interdire, de moins de contrôler, c'est pas si facile, il faut vraiment le vouloir. Merci beaucoup, Cynthia. Hein.
Merci à vous.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Clermont-Ferrand.
88.1.
Sud Radio.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord. Et on vote quand?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio.
Sud Radio.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. Pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir.
J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Soyez les bienvenus sur Sud Radio, parlons vrai. Retrouvez les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono également sur sudradio.fr. Et tout de suite, on retrouve la suite de Jean-Jacques Bourdin avec ses auditeurs.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Vous avez des ados, des pré-ados qui ont 9, 10, 11, 12, 13 ans. Comment faites-vous avec le téléphone, avec les écrans? Racontez-nous, parce que vos témoignages sont utiles pour tout le monde. Je dis toujours, ce rendez-vous est utile parce que ça nous permet d'écouter ce qui se passe ailleurs, peut-être de prendre, de pêcher une idée, de vous aider à réagir et à vous comporter avec les enfants. Par exemple, William est à Brive, en Corrèze. Bonjour, William.
Oui, bonjour à vous, bonjour.
Bonjour William, comment vous avez un fils, une fille de 11 ans, c'est ça?
Voilà, j'ai un fils de 11 ans qui bien évidemment fait partie d'une génération qui est pleinement en demande d'écran et d'utilisation.
Et oui.
Voilà, que ce soit de la console de jeu ou de le téléphone. Alors je suis parti dans l'idée de ne pas interdire parce que ça me paraissait ridicule. J'ai attendu bien évidemment le plus tard possible, mais j'essaie au quotidien d'utiliser ça plutôt comme un moyen de renforcer la confiance qu'on a tous les deux.
Oui.
Un outil de confiance plutôt qu'un outil de combat et de duel là-dessus. Je suis plutôt porté sur le principe d'essayer de comprendre comment il l'utilise, pourquoi il l'utilise. Je vous prends l'exemple concret d'une console de jeu. Il y a une console où il joue de temps en temps là-dessus. Et plutôt que de partir sur un nombre de minutes qui me paraissait pas pertinent, parce que si au bout de je lui autorise 20 minutes que sa partie n'est pas finie, c'est ridicule d'autoriser l'enfant et de le faire couper en plein milieu d'un jeu. Et si derrière, finalement, vous laissez l'enfant continuer un petit peu plus parce qu'il n'a pas fini sa partie, la règle que vous avez mise en place, elle n'a plus de sens. Et ce qui compte pour l'enfant, c'est de mettre du sens à ce que l'on fait. Donc moi, je suis plutôt parti dans l'idée de comprendre, de voir combien de temps durait une partie ou une étape après laquelle il pouvait arrêter de jouer. Si c'est 18 minutes, si c'est 25, c'est pas très grave, les 7 minutes d'écart. Mais en tous les cas, ça le responsabilise beaucoup sur le principe de dire mes parents me font confiance sur ce principe de jouer, maintenant c'est à moi de me gérer, je fais ma partie et j'arrête. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors je fais pas de statistiques précises bien évidemment, mais on se rend compte au quotidien qu'il y a beaucoup moins d'utilisation et que ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Il prend, il fait sa partie, la partie est finie, il coupe et il part sur les devoirs ou sur ce qu'il nous reste à faire comme activité. Et je trouve que c'est mieux d'utiliser comme un outil pour renforcer cette confiance parent-enfant plutôt que de mettre une règle qu'on ne pourra pas respecter de toute façon. J'essaie de mettre un maximum de sens à cette relation.
Je comprends, William. C'est une approche intelligente, une approche responsable. Je comprends très bien. Et je dois dire que c'est ce que j'ai appliqué avec mon fils, il a aujourd'hui presque 18 ans, donc évidemment c'est différent, mais c'est la règle que j'ai appliquée. Et je pense que c'est très bien, parce que c'est très bien, comme ça leur permet de comprendre qu'il y a des limites.
Et exactement, qu'elles viennent d'où.
Et ça les responsabilise. L'objectif, c'est quoi, quand on est parent, me semble-t-il, c'est de donner de l'autonomie aux enfants et de les responsabiliser. C'est ça la grande difficulté. Et la grande difficulté, nous sommes tous parents confrontés à cela. Comment donner à la fois de l'autonomie aux enfants et comment les responsabiliser? C'est ça le fond du problème.
Exactement. Et on a une génération qui, de par l'utilisation de ces outils, est capable d'être responsabilisé de plus en plus tôt sur certains items de leur vie. Donc c'est assez important. Et puis, on le voit même même entre adultes, les choses qui se passent basées sur la confiance et avec la compréhension des deux, ce sont des choses, des mesures qui durent dans le temps. Si on passe en force tous les jours, ça ne durera pas.
Bien sûr.
L'objectif, c'est que nos enfants soient calés aussi. Ça, cette partie d'éducation, on ne peut pas répéter les mêmes choses tous les jours. Donc, il faut arriver à faire en sorte que ça vienne aussi de l'enfant. Et si ça vient de lui, alors c'est gagné, c'est un bien grand mot. Mais en tous les cas, il y a une belle étape de franchie.
Bien, merci beaucoup, William. Merci.
Non, vous merci avez à vous. Réagi. Merci. Merci à vous, Sud Radio.
Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, William. Sud Radio, vous êtes de plus en plus nombreux, je le dis toujours, mais j'en suis tellement heureux. Dans un instant, nous parlons des mobilisations étudiantes en soutien aux Palestiniens. Mobilisation plus ou moins importante. Yamina et Xavier sont là. Yamina, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci Yamina d'être avec nous. Merci. Xavier est à Lyon, bonjour, informaticien. Bonjour Xavier. Alors bonjour. Yamina, ça me fait plaisir de vous avoir. Yamina, c'est la première fois.
Hein, oui, absolument.
Vous êtes enseignante en fac, hein, Yamina. Oui. Je vous sens un peu émue là.
Absolument, oui. Puis je suis toujours très heureuse d'être à l'antenne sur Sud Radio, radio que j'affectionne particulièrement.
C'est vrai. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina?
Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre.
Oui.
Et puis il y a toutes les opinions qui s'expriment. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en ces temps difficiles.
Oui, ça, je suis d'accord. Alors, dans votre fac, Yamina, vous êtes enseignante, est-ce qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes ?
Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas propagé à ma fac, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un mouvement de propagation à Lyon, à Bordeaux, etc. Et puis bon, oui. À Paris, Sciences Po et Sorbonne. Peut-être ça viendra, ça a été le cas pour la réforme des retraites, hein, donc ça finit par arriver. Et puis on verra la mobilisation surtout des syndicats étudiants, en l'occurrence l'UNEF, puisque suite à leur communiqué. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe.
Il n'y a rien qui se passe. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse comme ça venir dans une fac, se mobiliser pour défendre les Palestiniens sans finalement qu'il y ait de contradiction, parce qu'il n'y a pas de contradiction, très peu de contradiction. Alors je voudrais aussi préciser qu'il y a 13 000 étudiants à Sciences Po et que ce qui s'est passé vendredi concernait 150 à 200 étudiants. Hein. Il faut aussi relativiser les choses. Yamina.
Je suis entièrement d'accord, il faut relativiser. Il y a quelques centaines que j'appellerais de pseudo-révolutionnaires manipulables à merci par l'extrême gauche et le pire par les islamistes. Et c'est là effectivement le danger, parce que bien évidemment que les universités, que les campus universitaires doivent être le lieu d'abord du débat.
Ben bien sûr, il y a toujours eu des contestations, des débats à l'université, c'est pas nouveau.
Il le faut, mais là, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a aucune nuance à apporter, avec des positions très radicales, très très radicales, et ce qui empêche le débat sera. Mmh. Et ça, par contre, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est inacceptable ce qui arrive aux étudiants juifs. C'est inacceptable de ne pas pouvoir discuter de cette question très complexe. Il n'y a pas de nuance possible, très complexe. Et le pire, très sincèrement, et ce qui m'attriste, et m'inquiète, c'est que ces mouvements-là sont aujourd'hui récupérés par l'Iran. On a vu le communiqué du chef suprême.
Oui.
Absolument. Et puis du Hamas aussi, parce que c'est très bien de défendre les droits des Palestiniens, et j'en suis entièrement d'accord, mais sans oublier quand même ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça, c'est extrêmement important. Il faut condamner à la fois le pogrom du 7 octobre, mais aussi, bien évidemment, la guerre, ce que subissent les Gazaouis. Il faut apporter un peu de nuance, un peu de délai contradictoire, et ne pas faire subir aux étudiants juifs qui ont aussi le droit de suivre des cours, qui ont aussi le droit de faire entendre leur voix, mais comme pour toutes les autres opinions, au sein des universités, c'est les lieux.
Vous êtes musulmane, Yamina. Vous êtes musulmane.
Je suis de culture musulmane,
oui. Oui. Non, mais c'est bien d'entendre les propos que vous tenez dans la bouche de quelqu'un qui est de culture musulmane.
Oui,
bien
sûr. C'est important. On est nombreux à le penser.
Vous êtes nombreux, voilà, parce que je voudrais qu'on arrête de penser que tous les musulmans sont les mêmes. Non. Vous comprenez ce que je veux dire, Yamina ?
Mais oui, bien évidemment, on n'est pas tous les mêmes. On est nombreux à penser, à être solidaires de ce qu'a subi le peuple juif, en tout cas les Israéliens en l'occurrence. Le 7 octobre, j'ai été d'ailleurs à tous les rassemblements, ce qu'ont subi les femmes de viols, d'exactions, les enfants. Et ça, c'est primordial, c'est primordial d'être à leur côté,
mais aussi d'être aux côtés du peuple. Ça ne veut pas dire qu'on soutienne Benjamin Netanyahou.
Il faut différencier les deux. On soutient des peuples. Et d'ailleurs, soutenir le peuple palestinien, c'est au contraire. Crier fort notre désaccord, voire la condamnation du Hamas. La condamnation du Hamas, et là, je ne l'entends pas dans les protestations, dans les rassemblements des étudiants aujourd'hui, mais je vous ai dit dès le début, ils sont malheureusement manipulés par des opportunistes, des islamo-gauchistes, et ce qui a révélé ces rassemblements et ces blocages, c'est tout simplement l'alliance dangereuse, en l'occurrence, entre une gauche, une extrême gauche, et des islamistes. Les islamistes aujourd'hui avancent visage découvert.
Que vous entendez, vous écoutez Yamina, nous écoutons Yamina. Qu'avez-vous envie de lui dire ?
À Yamina, pas forcément grand-chose. J'entends le discours politisé, très bien. Mais aujourd'hui, je pense que vous perdez de vue peut-être l'essentiel, en fait. La première, c'est que, M. Bourdin, vous avez été jeune comme moi, on a été étudiant, on a manifesté, on a pris de la lacrymo, oui, on a été en face de CRS, on connaît l'histoire. Et on sait très bien que lorsque on manifeste pour quelque chose qui déplaît au gouvernement, forcément on est taxé d'être récupéré, d'être influencé, d'être manipulable, d'être des jeunes idiots, etc. Pourquoi pas ? Et quand effectivement on manifeste pour quelque chose qui convient au gouvernement, là forcément on est la passion de la France, on est la passion morale en action, très bien. Bon, ça, tout ça c'est de la propagande, c'est de la politique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, quand un étudiant manifeste, qu'il soit 50 ou 50 000, c'est pas le sujet, il exprime leur engagement pour une cause. Aujourd'hui, l'engagement qu'expriment ces jeunes, ce n'est pas un soutien à une faction, à un parti ou à je ne sais quelle mouvance militaire ou autre, c'est un souhait de mettre un terme à un massacre. C'est ça, aujourd'hui, l'expression de ces manifestations, comme l'expression de la plupart des manifestations dans le monde de soutien à Gaza, c'est des manifestations qui visent à exprimer aux États locaux la volonté des peuples que les États engagent des actions permettant d'arrêter le génocide. C'est ça. Et c'est ça le fond. Et c'est ça le fond sur lequel il faut se concentrer. Les histoires de « j'entends pas ceci, j'entends pas cela, je me sens pas en sécurité », vos petites peurs, vos petites craintes, vos petites émotions par rapport au massacre en cours sont franchement, à mon sens, d'un ridicule odieux. Aujourd'hui, il y a un massacre en cours. On est en 2024. On est à l'ère de l'information, ça ne devrait pas arriver. En 1994, on a eu le génocide au Rwanda des Tutsis. C'était déjà inimaginable qu'il y ait un génocide de cette ampleur-là dans les années 90. Là, on est 30 ans après, quasiment, et on reproduit un génocide d'une ampleur
génocide,
incroyable, sauvage.
Attention.
Oui, monsieur. Monsieur Bourdin, génocide, oui, parce qu'on a déjà eu cette discussion il y a quelque temps.
Oui, génocide, pour l'instant, ce n'est pas... Il y a des doutes, vous savez très bien, mais je ne vais pas...
Si, monsieur Bourdin, je suis désolé. Oui. Quand l'ICJ dit ce qu'il a dit, qu'il faut absolument mettre en place des mesures pour arrêter ça, parce qu'il y a un risque plausible de génocide...
Un risque de génocide, oui, c'est vrai.
Quand les rapporteurs de l'ONU officiellement devant les journalistes...
Risque de génocide, oui.
Quand les rapporteurs, que ce soit Francesca Albanese ou Madame Tlaleng, de la rapporteuse des Nations Unies, qui dit aux journalistes « oui, c'est un génocide », quand Francesca Albanese dit « oui, c'est un génocide », quand vous avez l'UNICEF qui dit « oui, c'est un génocide », quand vous avez tous les gens qui sont sur place, qui travaillent pour les organismes internationaux, qui vous disent « oui, c'est un génocide », qui vous disent « oui, il y a des crimes de guerre », et les crimes de guerre, vous allez sur le site de la Convention de Genève, c'est vite vu, les articles 18, l'article 2, lisez-les, prenez le temps de vous balader, vous ou les autres,
Et mais Xavier, Xavier, les crimes de guerre, je sais ce que c'est, et les crimes de guerre, effectivement, devront être jugés, c'est évident. C'est évident, quel que soit d'ailleurs l'auteur du crime de guerre, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord, et les auteurs de crimes de guerre, malheureusement, ne sont pas souvent jugés dans notre histoire.
C'est une très bonne remarque que vous faites, monsieur Bourdin, parce que je me suis posé cette question-là, effectivement, des crimes de guerre, et du coup, je suis allé me... regardez ce qui se passait sur le site de l'ICC. L'ICC, c'est la Cour criminelle internationale.
Oui.
D'accord.
Oui.
Parce que l'ICJ, c'est la Cour de justice qui peut condamner des États, et l'ICC, c'est la Cour criminelle qui peut condamner des personnes. D'accord. Et sur l'ICC, il y a 31 cas ouverts aujourd'hui. Et ces 31 cas ouverts, ce sont soit des Noirs, soit des Arabes. Bon, en résumé, hein. Il n'y a pas un seul blanc, c'est assez marrant.
Il y a Poutine,
Poutine n'est pas dans la liste des cas ouverts de la ICC.
De la ICC, non, mais concernant la Cour pénale internationale, évidemment, oui.
Donc ce que je veux dire par là, c'est in fine, la cause des étudiants...
Mais est-ce que crime de guerre, les Chinois, c'est pas une guerre, mais lorsque les Chinois exterminent d'une certaine façon les Ouïghours, est-ce que c'est un crime de guerre?
Alors,
c'est un crime contre l'humanité, en tout cas, c'est pas un crime de guerre.
Tout sera jugé en temps utile, il faut des éléments pour juger. Mmh. Si effectivement il y a crime de guerre avéré, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas jugé.
Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir raison, de poids de mesure. Ça n'exonère pas le comportement de l'armée israélienne, c'est ce que je veux dire.
Exactement. Et donc, oui, génocide, il y a. Oui, les manifestations étudiantes, aujourd'hui, elles visent à arrêter le génocide. Et de vous à moi, M. Bourdin, si vous, comme n'importe qui écoute votre émission ou qui, au jour le jour, voit des informations sur le sujet, tout ce qu'on peut faire, d'une manière ou d'une autre, pour faire en sorte que le génocide s'arrête, ne serait-ce qu'un jour plus tôt que ce qui est prévu.
Bon, il y a un cessez-le-feu, là, peut-être une trêve.
Ce serait une victoire humaine pour vous, ce serait une victoire humaine pour moi, ce serait une victoire humaine.
Évidemment, on est bien d'accord, il y a peut-être une trêve de 40 jours qui va être observée, nous allons voir ce que répond le Hamas, nous allons voir.
Bon. Il faut condamner, il faut sanctionner Israël, il faut que ce massacre s'arrête.
Bien, et il n'y a pas qu'Israël qu'il faut sanctionner, on est bien d'accord, hein, Xavier. Bien, merci Yamina, merci Xavier.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono. Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, parlons vrai, comme chaque soir, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono pour ne rien rater. Tout de suite, nous retrouvons André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Eh oui, Charles Trenet, douce France, où la dette publique a progressé depuis 1980 de 20% à 110,6% de PIB, soit 3100 milliards de mots. 3000, c'est à 3 trillions 100 milliards d'euros. 12 France, où la chute de la démographie continue de plus belle. 12 France, où la diminution de la productivité, chômage permanent, double déficit commercial, 100 milliards d'euros. Et le déficit public, 5,5% du PIB, mais, 12 France, puisque Bruno Le Maire, qui a écouté Charles Trenet, tend la main aux oppositions, et que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que le monde nous envie, puisque, rappelez-vous, il a réussi à mettre à genoux l'économie russe, comme il l'avait promis il y a un an, dit « Je tends la main à tous les parlementaires de l'opposition qui souhaitent rétablir les finances publiques ». Bonjour Nicolas Bavrez.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes économiste, vous êtes avocat, vous avez écrit
plusieurs livres et remarquables. Le dernier, le plus récent, Démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire en 2023. Vous aussi, vous avez envie de vous souhaiter rétablir les finances publiques. Est-ce qu'on en prend le chemin ?
On n'en prend pas du tout le chemin si on en juge par les déclarations du président de la République qui a dit que nous n'avons pas de problème de dépenses excessives mais de moindres recettes. Et venant du président de la République, ça acte le déni complet de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un vrai dérapage. Donc, il est bien vrai que la crise des finances publiques françaises est ancienne. Le dernier excédent, il date de Georges Pompidou. C'est 1973. Donc, nous avons
plus de 50 ans.
Voilà.
Plus de
50 nous ans, avons aligné 50 ans de déficit. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une vraie perte de contrôle de ces finances publiques. Il y a une perte de contrôle du déficit à cause des dépenses, contrairement à ce qui a été dit, ouais. Et surtout une explosion de la dette dans un moment où les pouvoirs publics français sont partis de l'idée que la dette serait soutenable parce que les taux d'intérêt étaient réels ou négatifs. Or, aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs normal dans un système économique en régime de croisière, nous avons des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt réels. En fait, quand est-ce que, pour les économistes, la dette devient insoutenable dans ce qu'on appelle la croissance nominale, donc la croissance réelle plus l'inflation, devient inférieure au taux d'intérêt. Or, nous y sommes. En 2024, la croissance sera autour de 0,7%. L'inflation sera un peu supérieure à 2, donc ça va faire autour de 2,8. Et les taux d'intérêt seront entre 3,2 et 3,5. Et donc là, on a une divergence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec donc la charge de la dette qui va exploser. Elle était autour de 40 milliards au début de cette... Et elle va passer à
70 milliards ou 80 milliards.
Entre 70 et 80 milliards en 2027.
Dans trois ans.
Et donc voilà pourquoi il y a un problème majeur. Et ce qui est frappant, c'est de voir que la classe politique française refuse de traiter ce problème. Et comme elle refuse de le traiter, en fait, la seule manière de le traiter... miser sur la croissance qui a été fait, puisque ça fait des décennies qu'on dit que la croissance va rétablir les finances publiques françaises, et évidemment, c'est une illusion. Et je reviendrai, c'est une illusion parce que la croissance, elle est bloquée, notamment par l'improductivité du secteur public. Monter les impôts, on est à un record de ce qu'on appelle les recettes publiques, c'est à 52,5% du PIB, c'est le record mondial. Maintenant, si on augmente les impôts, on diminuera l'activité.
Rappelez-vous, Giscard ou Pompidou, si on arrive à 40%, on sera en URSS. Ouais. Hein,
et donc, il reste une solution, c'est de s'attaquer aux dépenses, mais personne n'en veut.
Mais alors justement, vous avez commencé par ça, Nicolas Bavrez, l'État. Alors l'État, très bien, l'État est censé nous protéger, l'État est censé, dans le régalien, faire ce qu'il doit faire. Mais en même temps, justement, votre chronique du Figaro d'hier, vous disiez l'État vautour. Mais comment un président de la République peut-il dire « Ah oui, le problème, c'est pas du tout les dépenses publiques ». Or, les dépenses publiques explosent, et les dépenses publiques, apparemment, il faut expliquer justement aux éditeurs pourquoi c'est improductif, pourquoi ce qui se passe du point de vue de cet État mammouth, de cet État obèse, en fait, ne fait rien, ni pour la croissance, ni pour la productivité, ni pour le reste.
Alors, je crois que vos auditeurs le constatent quotidiennement. La dépense publique aujourd'hui, c'est 58% du PIB. Donc, c'est gigantesque. Ça veut dire que, grosso modo, 6 euros qui 10 sur 10 qui circulent dans l'économie française sont des euros publics. Et chacun peut voir qu'en face de ça, eh bien, la qualité de la santé se dégrade de manière spectaculaire. La qualité de l'éducation, n'en parlons pas. Les transports, la justice, la police, donc tous les services de base qui sont effectivement normalement assurés par le secteur public sont en train de s'effondrer avec d'ailleurs des endroits où il y a des problèmes d'accès, la santé par exemple avec la multiplication des déserts médicaux, et puis par ailleurs un énorme problème quand on accède à ces services, par ailleurs la qualité est en train de diminuer très fortement. Or, on fait ça avec, par exemple, un nombre de fonctionnaires qui n'a jamais été aussi élevé. On est à 5,7 millions. Il y a quand même encore l'an dernier...
C'est un record par rapport à... Enfin, c'est...
Ah oui, oui. Ça, par rapport à tous les autres pays européens, c'est un record. Donc, quand on dit qu'il y a un manque de moyens, c'est absolument faux. Il y a simplement des principes d'organisation, un manque de leadership, un manque de... criant de gestion. Quand on prend les
décisions... Oui, ce n'est pas la qualité des fonctionnaires qui est en cause, en fait.
Non, non, il y a beaucoup de gens extrêmement dévoués, d'ailleurs, qui mettent, y compris en péril, leur équilibre physique et mental dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans la police. Ce qui est en cause, c'est un système qui est totalement dysfonctionnel, un État qui est devenu obèse et impuissant. Avec à la fois des doublons partout entre l'État et les collectivités locales, ouais. Et puis un système complet de déresponsabilisation. Et derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État, comme le disait M. Massé, qui était le commissaire au plan du général de Gaulle, il disait que l'État doit être un réducteur d'incertitude. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on en a vraiment besoin, parce que l'État est fondamental pour arriver à répondre aux chocs qui se multiplient, les chocs financiers, les chocs sanitaires, les chocs stratégiques, les chocs énergétiques. Mais aujourd'hui, l'État est devenu, en fait, un multiplicateur de risques et d'incertitudes.
C'est le contraire de ce qu'il devrait
absolument
être, sa vocation.
Donc, il est devenu une énorme bulle financière avec cette dette dont on a perdu le contrôle de 3100 milliards. Mais il est aussi un risque, ce qu'on voit, parce que il a perdu le contrôle de la paix civile. Il a perdu le contrôle de la santé, on l'a vu avec la pandémie, et il a perdu le contrôle de la maîtrise des frontières, et donc tout ceci, en fait, coûte extrêmement cher. Et il y a des conséquences très pratiques, par exemple, en termes d'attractivité. C'est vrai qu'il y avait eu un certain nombre de progrès, mais aujourd'hui, par exemple, l'insécurité devient un problème pour les investisseurs et pour les entreprises étrangères qui voudraient venir s'installer
L'insécurité devient un facteur très réellement de problème pour les investisseurs.
Évidemment, c'est d'abord un problème pour la vie quotidienne et un problème politique pour la démocratie, mais c'est aussi un problème aujourd'hui, un problème d'attractivité économique. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est un peu de retour aux années 30, c'est-à-dire que l'État nous a mis dans un système qui est un système malthusien de décroissance par la dette. Ce qui est inquiétant, parce qu'effectivement tout le monde commente des statistiques par trimestre qui n'ont pas grand sens, parce que généralement, de toute façon, elles sont rectifiées après quelques semaines. Mais ce qui est fondamental, c'est de regarder un peu le cercle du système économique. On parlait des années Pompidou. Sous Pompidou, on a 6% de croissance par an, des gains de productivité de 4,5% par an.
Quel rêve.
Le plein emploi, un excédent de la balance commerciale, un excédent budgétaire de 0,2%, donc en 73. Aujourd'hui, c'est une spirale, mais une spirale déclinante. Et parce que qu'est-ce qu'on a? On a une croissance... qui était très très faible. Quand on prend depuis 2019, c'est 0,4% par an. Surtout, on a une productivité qui a diminué de 6% depuis 2019. On a une démographie qui s'effondre avec 1,67 enfants par femme. On a derrière le chômage qui remonte. Donc on est passé de 7,2 à 7,5, on va aller au-delà de 8%. On a une balance commerciale avec un énorme déficit de 100 milliards d'euros. Il n'y a pas l'équivalent en Europe et qui montre bien qu'on a
un
problème.
On est recordman en Europe, on met maillot jaune en Europe.
Sur le déficit commercial, ouais. La plupart des autres sont ou à l'équilibre ou en excédent. Et puis les finances publiques, on en a déjà parlé avec ce déficit dont on a qui a augmenté jusqu'à 5,5%. Et vous voyez, c'est donc ça sur lequel il faudrait essayer de revenir. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne travaille pas là-dessus et que, effectivement, quand on dit qu'il n'y a pas de problème de dépenses publiques, ça veut dire qu'on s'interdit d'améliorer l'économie française. Ce que je trouve dommage, pour en venir à l'État, c'est que la France garde des atouts, et dans les atouts, elle a un secteur privé qui fait preuve d'une résilience assez étonnante. On ne cesse de le critiquer, Quand on regarde les grandes entreprises françaises, elles ont de très bons résultats, mais parce qu'elles sont beaucoup à l'étranger. Et le reste du secteur privé essaye de survivre.
Surtout qu'elles créent des emplois, les PME, les, etc. Elles créent,
voilà. Donc, on a des atouts, on a du capital humain, parce qu'il y a des gens très compétents dans ce pays et qui sont volontaires et travailleurs. On a de l'épargne, on a des infrastructures, on a des pôles d'excellence dans le secteur privé surtout, parce que le public est en train de décrocher. On a une civilisation, un mode de vie, si vous voulez. Normalement, en France, on peut faire de tout. On peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'industrie, on peut faire du service, on peut faire du tourisme. C'est un pays de cocagne. Et nous avons méthodiquement détruit nos atouts. L'agriculture est un exemple symbolique, mais si vous voulez, tout le système productif français est une grosse agriculture, c'est-à-dire des atouts qui sont stérilisés par des normes, par des taxes et par un État qui passe son temps à empêcher le secteur privé de produire, en plus à lui donner des leçons, alors que lui-même est incapable de se gérer.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono. Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Les résultats de l'école de 40 ans de politique égalitaire, et ben de pédagogie bienveillante, c'est plus d'inégalités, moins de connaissances, moins d'exigences et plus de violence. Hein, c'est la génération j'ai le droit, je viens comme je suis. Ben, le résultat, vous le connaissez. Quand j'étais gosse, le privé, c'était pour les nuls. Aujourd'hui, c'est pour les meilleurs. Et les Français sont plutôt placides, mais leur soumission n'ira sans doute pas jusqu'à accepter de sacrifier leurs enfants.
Sud Radio, parlons vrai.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Sud Radio Narbonne.
104.7.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud. Radio.
This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a fake, come take it to the floor now. Feel dramatic.
Just feel dramatic.
Now
to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, spurs, boots.
To the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Les essentiels de Sud Radio à retrouver également sur sudradio.fr. On retrouve tout de suite le face-à-face, c'est avec André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Aujourd'hui, André Bercoff, vous recevez pour ce face-à-face Annick Pérez qui vient nous voir pour ce livre « Comment j'ai échappé au malheur », c'est aux éditions Ramsey. Bonjour Annick Pérez.
Bonjour.
Alors, j'ai pas l'habitude, vous le savez, dans cette émission, et vous le savez, de parler beaucoup des romans. Effectivement, on en parle de temps en temps, mais c'est beaucoup plus des essais, etc. Et puis, de temps en temps, m'arrive un livre, et ce livre, vraiment, m'a beaucoup, beaucoup touché, même plus que ça, je dois dire, il m'a bouleversé. D'Annick Pérez, on va pas dire qu'on se connaît pas, on se connaît, elle a écrit beaucoup de livres, elle a écrit des pièces de théâtre, elle fait de la peinture, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talents, des talents très divers, et elle a écrit ce livre, Comment j'ai échappé au malheur, chez, aux éditions Ramsey. Annick Pérez, vous mettez roman, en fait, c'est un roman vrai, un peu quelque part.
Absolument, tout est vrai et en même temps c'est une histoire surnaturelle et vraie. Alors là c'est un peu oxymore, surnaturel et vrai. Mmh. Bah, c'est surnaturel et c'est vrai.
Alors pourquoi surnaturel, vrai? Parce que effectivement vous évoquez énormément de choses et on va en parler effectivement avec, il faut le dire, et ça a été un très grand malheur de votre vie et la mort de votre sœur très jeune, ce qui s'est passé et puis cette rencontre. Enfin, ces rencontres tout à fait, je dirais presque surréalistes avec un chanteur, un des plus grands chanteurs français qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Mais au fond, vous avez voulu écrire à la fois vrai et pour dire que, en fait, il y a une vérité, mais il y a des vérités à plusieurs étages. C'est un peu ça?
Ben non, pour moi, il y en a qu'une. En fait, au départ, je croyais pas à ces choses-là, et force est de constater que quelque chose existe au-dessus des étages et que au-dessus du ciel. Et apparemment, oui, en effet, Jean-Jacques Goldman. Une chanson de Jean-Jacques Goldman, d'abord. Il s'appelle Confidentiel. M'a sauvé la vie. Il y a des chansons qui sauvent la vie. Voilà.
On va l'écouter.
Peut-être on se retrouvera. Peut-être que, peut-être pas. Mais sache qu'ici bas, je suis là. Ça restera comme une lumière qui me tiendra chaud dans mes hivers. Un petit feu de toi qui s'éteint pas.
Ouais, très belle chanson, on pourrait l'écouter, une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, Confidentiel, et ce qui vous a bouleversé parce que ça touchait à ce qui s'était passé pour vous.
Bah, si vous voulez, j'ai mis quand même 30 ans pour écrire ce livre. J'étais très jeune quand j'ai perdu ma sœur, qui était ma grande sœur, qui m'a tout appris et protégé beaucoup. Et j'ai écouté cette chanson en effet, j'aimais bien Goldman, comme tout le monde. C'était la star des années 86, 87, etc. Et cette chanson, tout d'un coup, que j'ai écoutée par hasard, avec un Walkman rouge, elle m'a détournée de ce que j'étais en train de vivre. Et c'est, je pense que c'est ça qui a fait le début de quelque chose avec Goldman qui est arrivé, qui m'est arrivé sans que je le demande. Et que dont je vous ai déjà parlé. Enfin, si quand vous avez lu le livre, vous avez vu ce qui est arrivé de complètement fou et effectivement surréaliste.
Alors justement, surréaliste et surnaturel, on en parlera. Mais c'est intéressant que vous racontiez justement. Encore une fois, ce livre, je le recommande vraiment. Moi, je l'ai lu, je veux dire, d'une traite. J'ai commencé à le lire et je ne l'ai pas lâché parce que il est à la fois extrêmement je dis réaliste, et effectivement, et puis il évolue dans d'autres sphères. Mais alors, l'histoire, votre histoire, avec Jean-Jacques Goldman, elle est effectivement très spéciale, parce qu'il ne sait à la fois rien de ses passés et tout s'est passé. Racontez.
Bah, c'est-à-dire qu'au départ, donc après cette chanson, j'ai écouté en boucle Jean-Jacques Goldman, et j'ai commencé à le rencontrer. Je l'ai rencontré en bas de chez moi. J'habitais rue du Cherche Midi.
Vous n'avez pas cherché à le rencontrer?
Non, absolument pas. C'est le hasard total.
Alors racontez à chaque fois, vous voyez.
Je le rencontre rue du Cherche Midi. Il avait une voiture gris foncé. Bon. Après, j'ai commencé à le rencontrer boulevard Raspail. Je l'ai rencontré dans d'autres endroits. Et puis, j'ai décidé d'aller dans une émission de Drucker où il s'appelait Champs-Élysées à l'époque. Et il était dans une voiture rouge. J'ai demandé un autographe. Là, c'est la première fois donc que je lui ai parlé. Je lui ai absolument pas dit que j'avais perdu ma sœur, quoi que ce soit.
Et pourquoi, attendez juste, pourquoi lui demander un autographe?
J'ai jamais demandé d'autographe de ma vie. Ouais. Mais en plus, j'étais très jeune et très timide. Et je sais pas, parce que je le rencontrais, je trouvais ça normal. D'accord. Donc, moi, je croyais pas je croyais en tout et en rien, en fait. Et je me suis dit, il y a un signe, il y a quelque chose. Ce type, il y a un signe, il y a un lien avec ma sœur, c'est clair. Et donc, il m'a donné cet autographe. Bon, ça c'est rapide parce que vous verrez que c'est très marrant dans le livre comment ça s'est passé. Et après, j'ai continué à le rencontrer sans cesse.
Toujours par hasard.
Par hasard. Et le point le plus fort, c'est quand je suis allée avec une amie à qui d'ailleurs j'ai dédié ce livre, Lina Sicard, à Troyes. Pour le voir, parce qu'elle me dit,
en Champagne.
Elle me dit, écoute, viens, on va le voir en concert et tout. Je sais que t'aimes pas les concerts, mais ça fait rien. Ça va te changer un peu. Parce que j'avais décidé de ne pas faire un deuil comme les autres. J'ai refusé de dire que j'avais perdu ma sœur. J'ai refusé quand les gens se sont jetés sur moi.
Vous n'en parliez jamais ?
Jamais. Ouais. Et en plus de ça, je refusais que les gens se jettent sur moi tout le temps. Surtout au début, quand on m'a appris la nouvelle, tout le monde s'habillait en noir autour de moi. Je refusais ce deuil. Enfin, j'ai pris des chemins ailleurs.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono à retrouver sur l'application de Sud Radio et sur sudradio.fr. Et tout de suite, nous retrouvons les clés d'une vie avec Jacques Pessis.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Aurillac.
101.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
chemin face au vent pour vivre à tout.